Vas-y. Je sais pas si tu te vois.
Ouais.
Il y a aussi Bertrand Hébert, justement, qui met aussi un vidéo YouTube, Jimmy, des frères Rougeau. J'imagine que t'as connu, est-ce que t'as connu, Jimmy, les frères Rougeau, Raymond et Jacques?
Oui, j'ai connu. Oui.
Et justement, en France, ils avaient eu un combat avec Dino Bravo et Greg Valentine, à Paris, qui avait fait sale comble à ce moment-là. Donc, la lutte a déjà aussi été populaire dans ces vieilles années-là, dans les années 80-90, mais elle a connu, je crois, après ça, une pente descendante où il y a une génération de fans qui a arrêté de suivre la lutte de ce que je comprends.
C'est pas ça en fait, c'est que la lutte a toujours été très 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 populaire en France. D'ailleurs, okay. le record du monde d'un show de lutte, c'est en France, c'était dans les années 60. Dans un stade de foot, ils ont mis, je crois, 140 000 personnes pour un show de lutte. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'à partir de cette période, au début des années 90, la lutte était diffusée sur les chaînes
spécialisées.
Des chaînes nationales,
okay.
sur les chaînes de grande écoute, sur les chaînes gratuites, et ils ont perdu le contrat.
Okay.
C'est là que c'est parti sur des chaînes payantes et qu'on s'est retrouvé avec des émissions le samedi matin à 6 heures du matin que personne ne regarde.
Non, c'est pour ça qu'il y a un gap dans les générations au niveau de qui on connaît et qui on ne connaît pas présentement je parle au niveau des fans là.
Exactement. Par contre, je vais te parler simplement au niveau show. C'est pas parce que ça passait plus à la télé qu'il y avait plus de show. Il y a toujours eu des shows. Comme je te dis, on travaille localement. Quand on fait un show, on travaille jamais au niveau national. Le national nous intéresse même pas, ça nous apporte rien. Ça t'apporte de la notoriété pour ton starship personnel, mais pour organiser un show, pour ramener du gens à ton show, ça t'apporte rien du tout.
Vous allez ratisser sur qu'est-ce qui est près de l'endroit où vous faites
sur 15 kilomètres autour. Ouais.
Les villes, excuse-moi Patrice, les villes que vous faites des shows, c'est des villes de combien d'habitants environ?
Alors les villes où on fait des shows, en fait, c'est des petites villes. Ça veut dire que ça va être des villes de moins de 50 000 habitants.
Ok.
Après, quand on fait des grandes villes, comme je te dis, c'est le producteur qui fait le zénith avec la salle de 3 000 personnes.
Okay.
Et là, il fait le gros truc.
Ok. T'es ici jusqu'à quand, Jimmy?
Je suis ici jusqu'à la fin du mois.
Tu m'enlèves les mots de la bouche.
C'est ça que t'allais demander.
Plug-toi, Jimmy, c'est le moment, parce que là, on doit aller en pause publicitaire. Je veux que tu te dises, c'est quand tes prochaines apparitions, à quel endroit, et puis dans quelle ville, vas-y, on t'écoute.
Bah écoute, pour ce qui est de Montréal, je serai vendredi là, et vendredi prochain, je serai à la CRW.
La CRW, pour ceux qui ne connaissent pas la CRW.
La CRW, exactement, à Montréal. Samedi, là, je vais lutter à la CIFO à Ottawa. Et le dernier samedi, ce sera le 28, je serai à Toronto pour ma Maximum Pro Wrestling.
OK. Donc, merci beaucoup d'avoir été en présence physique.
Merci d'avoir invité.
Ben oui, écoute, là, je me suis fait avoir. Je voulais faire une intro. Hein,
d'un français à un autre.
Avec son chapeau de français, tu vois, il te rend hommage à Sylvain Grenier qui fait son apparition en studio. Il mérite sa chanson. Nous, on va s'arrêter pour une pause. Au retour, nous allons avoir une récapitulation des informations du côté du fabuleux monde de la lutte professionnelle. Également, on aura bien sûr la chance d'avoir Pat Patterson en entrevue. Vous écoutez bien sûr de TOW Radio Show sur le 1570 AM, également le 1570.ca.
Sur les ondes de CJLV 1570, c'est l'émission TOW Radio Show. En compagnie de l'arbitre Patrice Maltais, ses collaborateurs Marc Blondin, Sylvain Grenier, Patrick Laprade et Patricia Malloy. Pour nous joindre, faites le 450-680-1570 et sans frais, le 1-866-895-3142.
L'épilation définitive à la lumière pulsée de Palomar d'Oasis Technologies vous permet enfin de dire adieu aux poils. Chez Oasis Technologies, une variété d'options s'offre à vous, hommes ou femmes. Tout type de poils, tout type de peau et sur toutes les régions du corps, utilisez l'épilation à la lumière pulsée de façon sécuritaire et sans douleur.
Informez-vous sur nos spéciaux d'après-fête et vous pourriez recevoir votre premier traitement des aisselles gratuitement. Oasis Technologies, c'est plus de 50 points de service au Québec. 1-877-EPILATION, 1-877-374-5284. Ou visitez finilespoils.ca.
Ici DJ Mike Charlebois. Je vous invite à ma soirée karaoké du dimanche soir à la brasserie 4040, coin Jean Talon et Pinneuf à Montréal. La soirée débute à 22h et à minuit, nous diffusons à la radio un concert unique en Amérique du Nord. Venez chanter à la radio karaoké tous les dimanches. Pour plus de détails, 514-926-7500.
Le Pink Paradise du 117 boulevard des Laurentides à Laval pour éveiller vos sens. Le bar érotique voté numéro 1 dans la grande région de Montréal vous accueille. Du lundi au vendredi dès midi et le week-end dès 20h. Vous serez comblé de l'ambiance, mais surtout par le charme des demoiselles du Pink Paradise. Jusqu'à 30 demoiselles pour vous chaque soir. Visitez-nous au www.pinkparadise.ca ou encore mieux, une visite au 117 boulevard des Laurentides à Laval et vous serez comblé. Le Pink Paradise, la paire qui vaut le détour.
Vous êtes à 1570 Laval et au 1570.ca.
Salut, ici Patrick Laprade. Vous écoutez TOW Radio Show.
Bon, ben, nous sommes déjà rendus prêts avec notre invité. Salut Pat, ça va bien?
Ça va très bien.
Good, merci beaucoup d'accepter l'invitation à la dernière seconde. C'est une gracieuseté du cerveau de Sylvain Grenier parce que c'est lui qui a eu l'idée d'inviter l'inventeur du Royal Rumble.
Puis en plus, c'est sa fête jeudi, fait qu'on peut tous y chanter bonne fête.
Tu veux qu'on chante bonne fête, Pat?
Bonne fête, Pat.
Ah oui, j'ai hâte. À jeudi, j'ai un gros party qu'on va faire aux États-Unis. On va chanter à Miami, bien des amis, on va avoir 150 personnes, là. On va avoir du fun.
Pat, c'est sold out, right?
Allô?
Il n'y a plus de place, même si on voudrait, on pourrait même pas y aller à ton show, là. C'est sold out.
No, it's fucking sold out.
Donc, Pat, tu vas te chanter bonne fête à toi-même?
I can't sell out in wrestling, but I can sell out in singing.
I think you did both pretty good. Mais Pat Laprade avait quelque chose à dire à Pat?
Oui, non, je voulais savoir si c'était pour chanter ton grand succès My Way lors de ton anniversaire, Pat.
Ah, il faut que je sois là pour après 1h30 maintenant, chanter pas mal.
Ouais. Fait que Pat, j'ai pensé à toi pour cette semaine parce que c'est ta fête. Et c'est ta fête en janvier, et c'est aussi le pourquoi le Royal Rumble est en janvier. Il y a peut-être des gens qui le savent pas, parce que c'est toi qui as créé le Rumble. Puis on veut savoir d'où c'est que ça vient, cette idée-là, Pat. Le début, comment que ça s'est griffonné sur les premières pages d'une napkin sur le bord d'un bar avec Vince, ou ça vient de toi. Comment ça s'est passé, ce processus-là?
Ça vient de moi tout seul. Parce que moi, quand j'ai commencé à travailler dans l'office, parce que comment je dis ça en français? To be creative, you know?
Oui, d'être créatif.
The business, yeah. Fait que je vais toujours demander, moi, c'est qui a commencé les combats royaux? Un combat royal, c'est un combat qui a 28 heures dans l'arène, puis il commence tout en même temps, puis ça commence. Mais il y a quelqu'un dans la business de la lutte qui a commencé ça.
Qui a pensé à ça, oui.
Dès là, on sait pas qui a commencé ça, mais. Ça a commencé, mais quand j'étais jeune dans l'île, je voyais un combat royal, puis boum, boum, j'ai dit, c'est qui a commencé ça? On le sait pas, mais là, je me mettais dans la tête, j'aimerais ça être capable de créer quelque chose que personne n'a jamais vu. Alors, j'ai commencé à penser des idées. S'il y en a deux gars qui rentrent en premier, 2 minutes après, il y en a un qui rentre, puis 2 minutes après, il y en a un autre qui rentre. Là, tu continues, il peut y en avoir 20 ou 30, là. Mais j'ai donné l'idée à Vince. Vince, il a commencé à rire de moi.
Il aimait pas ça?
Oui, tabarnak. Il n'y a pas bien trop de temps, 20 gars, là. Hey, voyons donc, ça n'a pas de sens. Il aimait pas ça partout. Tu vois, c'est trop long, puis il aimait pas ça. C'est OK. Mais j'avais toujours l'idée dans la tête parce que c'est une affaire que je voyais, là. Ça va marcher. C'était une bonne affaire. Mais lui, il voyait ça trop long. Pour la télévision, c'est long, tu sais.
Oui, c'est vrai.
C'est un combat qui est long, qui dure longtemps, tu sais. Fait que, on a eu un meeting une fois. Ça, c'est une histoire qui est vraie, ça. On a eu un meeting un soir, puis on avait un spécial qu'il fallait qu'on fasse pour USA Network.
Oui, oui.
Le USA Network, on avait Dick Ebersol, le président de NBC Sports. Dick Ebersol. Il travaillait avec nous autres de temps en temps, puis c'était un USA Network. Il fallait faire un spécial de 3 heures. Là, on parlait d'une conférence qu'il faut faire un combat comme ci, on va faire ça, on va un combat par équipe. Il y a de quoi qui manquait dans le show. Fait que Vince, il dit à moi, il dit, Pat, dis-nous Elle dit, donc, Dick Ebersole, ton idée là, que t'avais, ton essai d'idée que t'avais. Je donne mon idée à Dick Ebersole. C'est Dick Ebersole, il a aimé ça comme un fou.
Ah.
À toutes les deux minutes, un autre lutteur qui rentre. Un autre deux minutes, un autre lutteur qui rentre. Puis lui, pour la télévision. Lui, il regarde seulement l'image de la télévision.
Oui.
Peut-être que c'est vous, je regarde ça. Tam, on a un autre gars qui rentre. Bing, tu sais. You lui aimé ça. Bon, Vince, il dit, OK, t'aimes ça, Dick Emerson, Pat, écris Royal Rumble. Fait que je l'ai fait toute moi-même tout seul le premier soir. Ça a été un gros succès. Aujourd'hui, j'ai rendu à 25 ans.
Wow!
Est-ce que Pat a été influencé dans ta créativité pour le Royal Rumble de Roy Shire du territoire de San Francisco où tu as lutté pendant longtemps? Justement, Roy qui était reconnu pour faire une batteur royale en début d'année à chaque année. Est-ce que ça t'a influencé aussi dans ton thinking pour créer le Royal Rumble?
C'est ça, parce que Roy Shire, il y avait une fois par année, un Royal Rumble, pas un Royal Rumble, un combat royal,
mm-hmm.
C'était le meilleur combat royal que tu peux pas avoir n'importe où, dans n'importe quel territoire dans ce temps-là. Il faisait un bon combat royal, puis it meant something. Ça voulait dire de quoi, tu vois, de quoi spécial, tu sais. C'était bien fait. J'ai appris ça de lui, d'une manière que je voulais faire un petit peu de différence, c'est tout.
Ah, c'est bon.
J'ai pas sorti le nom, moi, là.
Ouais.
Donner l'idée, on avait un département à l'office dans ce temps-là, au Connecticut. C'est des gars, on lui disait, là, que ça de combat que c'est. On leur expliquait que ça de combat que ça va être. Mais on n'avait pas de nom pour.
Fait que c'est eux qui sont arrivés avec le nom Rumble?
Bon, nous autres, on voulait pas avoir le combat avec le Battle Royale. Les autres, ils ont sorti le combat Royal Rumble.
That's good.
C'est parfait. Encore les bains du nom, moi, j'ai...
Bip! Pat, je veux savoir, lors de la diffusion du tout premier pour Royal Rumble, quelle a été la réponse venant des fans?
Les fans, ils aiment ça. C'est supposé que, moi, j'ai entendu parler, mais ça fait des années, là. WrestleMania, c'est notre plus gros pay-per-view.
Ouais.
Le deuxième plus gros pay-per-view, c'est le Royal Rumble. Fait que c'est pas trop pire, hein?
C'est pas trop pire. C'est une bonne invention, mon Pat.
Les amateurs, ils aiment ça. Les amateurs, ils aiment ça. Ouais.
Ensuite de ça, Pat, je veux savoir, vous avez fait une continuité concernant le Royal Rumble. Qu'est-ce que vous avez ajouté avec les années pour que, justement, ça soit le deuxième meilleur événement de la WWE?
Le deuxième meilleur quoi, là, tu me demandes?
Ben là, tu dis que le Royal Rumble, c'était le meilleur après WrestleMania.
Parce que pour se différencier des Survivor Series, le Rumble, faut continuer à innover. Là, je sais que maintenant, depuis quelques années, le gagnant du Rumble gagne le main event WrestleMania. Mais ça n'a pas toujours été comme ça.
Non. En premier, c'était pas comme ça, non.
Puis, est-ce que tu vois un futur avec le Royal Rumble autant populaire, ça va continuer? Ou maintenant, le Money in the Bank, le Survivor Series vont voler la vedette au Rumble?
Non. Je pense qu'il n'y a rien qui peut voler la vedette de Royal Rumble. Non. Ça, c'est un combat spécial, c'est différent. J'ai eu beaucoup d'autres idées qui n'ont pas accepté encore, mais j'essaie de les pousser encore, d'autres idées pour des pay-per-view, mais ils vont venir qu'après un bout de temps, ils n'enseignent tellement d'affaires qu'ils vont renseigner les affaires que je les ai suggérées, mais on va voir, d'accord.
Fait que ça fait longtemps que t'es avec
la... Je me débattais beaucoup, vu mes idées, master, je me débatte moins, là.
Ouais. Ben, toutes ces années-là, tu t'es débattu, puis tu te donnes encore à l'âge que t'es rendu. T'es rendu à quoi, 84, Pat?
Sylvain, franchement.
Non, c'est drôle, parce que je parlais à Pat cette semaine, puis il me dit, je vais avoir 69.
Oh,
là. Hein, tu te sens pas 69, Pat, toi, là.
Attends une minute, c'est qui me parle, là?
C'est Sylvain.
Pas Sylvain.
Oui.
Sylvain qui?
Grenier. C'est moi, Pat Gimmick.
Ah, c'est Sylvain Grenier?
Oui.
Ah, OK.
Tu te rappelles pas de lui, hein, non?
Oui, j'avais pas deux. Putain, une bouteille et demie de vin quand je bois, là.
Ah, OK, là, c'est le party.
Ah oui.
Ben oui, c'est sa fête. Mais non, mais Pat, on se demande tous, parce que ça fait longtemps que tu es avec la WWE, t'es un des premiers avec Vince. Tu as même connu Vince à ses débuts, puis tu as vu tous les bons coups qu'il a fait, tous les mauvais coups. Comment tu es devenu le bras droit de Vince? Parce que tu étais un petit Québécois qui parlait avec un accent. Puis comment un lutteur qui est parti de Montréal est devenu le bras droit de la plus grosse compagnie de lutte dans le monde?
Il y a peut-être deux choses là-dessus. La personnalité, c'est une autre affaire aussi, c'est une chose. Et puis, mon image et mes idées de la lutte, je pense que ça l'a impressionné. Ça fait qu'il a appris beaucoup de moi, comment que je connaissais la lutte, puis comment ça devrait marcher, puis comment faire un combat, puis comment faire une finition. Ça, c'était spécial là-dedans. Ça fait que il a commencé à m'accepter, à prendre mes idées, puis on a commencé à travailler comme ça.
Écoute, Pat, on a eu plusieurs questions sur notre page Internet de la part de fans qui savaient que tu étais pour être en entrevue ce soir. Et la question qui revenait le plus souvent, c'était comment le surnom, quand tu t'as lutté à Montréal, puis il y avait aussi les segments avec la WWF dans les années 80, tu te faisais surnommer le rêve du Québec. Et les gens veulent savoir d'où c'est venu ce surnom-là, de qui c'est venu et comment t'en es venu à te surnommer le rêve du Québec.
C'était facile. Voyons donc, je m'en vais à Québec et puis je m'en vais lutter comme Pat Patterson, puis c'est un Québécois. OK, Pat Patterson, c'est pas un Québécois, là, en tout cas. Mais je t'appelais Pat Patterson, puis là, j'ai pensé d'avoir de quoi différent au Québec. J'ai pensé à Dusty Rhodes. Dans son temps, c'était The American Dream. Ben, je dis, qu'est-ce qui va passer? Ils vont m'appeler le rêve du Québec. Si le monde comprenait ça, là, ils connaissaient pas ça, là, l'American Dream. Le rêve du Québec, c'est parfait, là. Le rêve du Québec, c'est à moi, puis le reste, c'est tous des Québécois qui mangeaient des hot dogs.
Mais Pat, t'as jamais pensé, parce que t'étais un vilain, là, le plus longtemps dans ta carrière, puis quand t'es revenu au Québec, t'as jamais pensé vouloir devenir un babyface juste un peu pour un été ou deux pour avoir le monde derrière toi? Ou bien t'as vraiment toujours aimé être le heel?
Non, ça a juste arrivé de même. Là. J'aurais pu arriver à Montréal puis parler au promoteur. Non, je veux être un bon gars à soi, je veux que le monde il m'aime. Tout, ça a juste marché de même. Quand j'étais à Montréal, j'étais à le rêve du Québec, c'était là, hein, pour un bout de temps. Là.
Ouais.
Une couple d'été peut-être ou deux, là, c'est tout. Mais après ça, ma carrière au Québec t'a fini. Ma carrière était aux États-Unis. Mais j'ai dit, pendant que je suis là, pour une couple d'été, je vais avoir du fun. Peut-être un vilain. Mais le rêve du Québec.
Ça a marché parce que le monde s'en souvient encore.
Ben, le monde, hey, c'est en Floride, là, puis je rencontre du monde de mon âge. Du monde que je connais pas partout. C'est toi, la choriste d'être de Québec. C'est drôle, il y a beaucoup de noms qui me parlent. La l'aide du Québec, c'est toi, c'est mon choriste. Hein? C'est drôle comment tu rencontres du monde de même. C'est le fun. C'est le fun de faire connaître de temps en temps. Là. C'est le fun.
Il y a un autre, Pat, il y a une autre question que les fans nous demandent de tes années à Montréal. T'as fait équipe avec le regretté Pierre Mad Dog Lefebvre, qui est malheureusement le décédé dans un accident d'auto là, en décembre 85. Et t'as fait équipe avec pendant quelques temps. Et au moment de son décès, vraiment, les lutteurs québécois allaient de plus en plus à la WWF avec les Rougeau, Bravo, Martel. Toi, t'étais là à la WWF à ce moment-là. Est-ce que tu crois que Pierre Lefebvre aurait eu ce qu'il fallait pour passer, aurait eu sa place avec la WWF à ce moment-là?
Ah oui, c'est de valeur parce qu'il était un bon travaillant, puis il aimait la business, puis c'est un, comment je dirais, en vrai Québécois, là, c'est un Christ de bon gars pour ça.
Ouais.
Ah oui, un vrai bon gars, puis il aimait la business, très, un gars qui travaille fort, puis j'ai bien aimé Pierre, moi. J'étais là hein, pour un été. Moi, c'est lui qui était la vedette, parce que moi, je voulais être là pour 3-4 mois, puis être la vedette un petit peu, mais je voulais pas y voler sa vedette. C'est lui, là, Mad Dog Lefebvre. Ben, lui, il n'y avait pas de problème avec ça. Là. On s'est bien adonné ensemble, puis il était merveilleux. Franchement, là, c'est un bon gars. Moi, ça m'a fait de quoi quand j'ai entendu dire là, qu'ils sont fait tuer dans un accident d'auto, là, tu sais. Mais Mais tu sais, quand tu vas quelque part, tu veux faire ton possible pour être la vedette, mais tu veux pas voler la vedette de l'autre.
Ouais.
Parce que lui, il a travaillé tellement fort au Québec pour avoir un nom. Là, il arrive, Pat Patterson, un étranger, qui est jamais ici, là, il va prendre la vedette. Fait que j'ai tout mon pouvoir pour enlever sa vedette à lui, tu sais.
Ah, ben, c'est comme mes anciens partenaires.
Comment les anciens partenaires?
Ceux que j'ai eu avec la résistance, ils faisaient tout ça, ils voulaient pas me voler la vedette du tout, du tout.
c'est ça.
Hey, Pat, y a un fan qui vient de nous écrire une question pour toi. Il paraît que t'étais là quand Jacques Rougeau a frappé Dynamite Kid backstage. Qu'est-ce que tu te souviens de cet événement-là? C'était vraiment.
Je m'en rappelle ça, oui. Ben, les autres, moi, je ne savais pas qu'il y avait de
la chaleur.
Il y avait de la chaleur entre les deux. Là. J'avais aucune idée de ça, moi. Je savais que j'avais entendu des histoires que ça se pompait un et l'autre. Un soir, il y avait un joke. Un autre soir, il y avait un joke dans le camp. Pis... Et tu sais, il y avait des petites histoires qui se passaient, mais je pensais que ça allait être des jokes que les lutteurs faisaient entre eux autres. Là,
ouais.
Puis, moi, j'avais aucune idée. Fait que Jacques puis Raymond, ils disent, Pat, ça te tente-tu de venir manger une sandwich avec nous autres? Puis, dans ce temps-là, dans les arénas, encore aujourd'hui, on a toujours une place que les gars vont manger, tu sais.
Oui, la bonne bouffe, le catering.
Oui, catering, oui. Fait que je m'en allais avec eux autres. Puis, en s'en allant, moi, je m'en sors avec eux autres. Puis, en rentrant dans la salle à dîner, British Bulldog, il sort, puis Jacques Rougeau, il en pète un sa gueule en tabarnak. Le sang, il était partout. Là. Il a cassé à mon foie, quasiment. Puis moi, j'ai dit, tabarnak, je ne savais même pas que c'était pour arriver, cette affaire-là. J'avais aucune idée de ce qui se passait. Hey, c'était l'enfer pendant un bout de temps. Parce que il y a un bout de temps qui pensait que moi, j'étais là-dedans aussi, là, comprends-tu? Parce que, dans ce temps-là, Vince, il voulait avoir des lutteurs québécois parce que notre télévision a passé au Québec en français.
Ouais.
Et puis, Vince, il disait à moi, le Pat, tu peux m'emmener les Rougeau, ça y est rentré. Et tu peux avoir Bravo, Ricky Martin, ça me prend des lutteurs québécois. Fait que moi, j'ai fait venir ce gars-là travailler pour la WWF. Suite, là, ça, c'est les chums de Pat, là. Ah oui, c'est tous les chums de Pat, ça. Les autres, ils vont avoir des breaks parce que c'est des Québécois, tu sais.
Ah, j'ai déjà entendu celle-là.
les gars, ils comprenaient pas pourquoi qu'on faisait ça, là, comprends-tu?
Ouais.
On faisait ça parce qu'on voulait aller au Québec, t'en as tiré. C'est bonne foule, comprends-tu? Avec des noms québécois.
Logique.
Mais c'est qui est arrivé que ils ont pensé que les Rougeau, c'était une de ma petite gang, là, tu sais, puis moi, j'essayais de les supporter. Les Rougeau, ils ont fait une belle job, ils étaient bons travailleurs, puis ils ont fait. Vraiment, les Rougeau, ils ont fait une belle, bonne job. C'était. Les deux gars qui s'arrangeaient bien, ils parlaient pas bien ensemble, puis ils sont scannés, puis ça a commencé comme ça.
Bon, ça arrive.
Écoute, Pat.
Toujours avec John Michael, puis Bret Hart.
Ouais.
Écoute, Pat, je t'entends parler des Québécois et tout ça dans les années 80. Chose qu'il faut pas oublier, c'est justement dans ces années-là, il y avait pas juste toi qui travaillais pour l'office en dessous de Vince. Il y avait René Goulet, il y avait Terry Garvin qui était trois Québécois. Toi, Terry et René, vous étiez trois gars du Québec, puis vous étiez peut-être les trois personnes les plus influentes ou les plus importantes après Vince McMahon dans la compagnie. Ça devait être assez spécial de voir une province de 5 millions de personnes être aussi bien représentée à la plus grosse promotion de lutte qu'il n'y avait pas au monde.
Ouais, aujourd'hui, là, j'ai 71 ans. Puis je me regarde dans ma vie quand j'ai parti de Montréal avec rien, you know, avec 20 piastres dans mes poches, je parlais pas l'anglais, que je suis rendu ici aujourd'hui. C'est un petit gars de Montréal avec rien, puis je me suis rendu ici. Je suis bien content de ma carrière, je suis bien content de ma vie, mais il y a des gars qui sont plus bons que d'autres, sont des gars qui sont plus chanceux que d'autres. Ça dépend. Faut ton timing, c'est correct. Tu sais, des fois, le timing est pas bon, mais le timing était bon pour moi. Hein. Vince, il avait besoin de quelqu'un, puis Il y a même une personnalité, puis ça a bien marché de même.
C'est-tu toi qui avait été chercher justement René Goulet puis Terry Garvin pour les amener travailler à l'office avec toi?
C'est pas moi qui ai amené Terry Garvin, là.
OK.
C'est un, c'est George Scott qui avait amené Terry Garvin avant moi. Moi, avant ça, j'étais un gars qui travaillait comme, je travaillais comme un agent, un producteur, là, sur sa route, là. Il a fait rentrer Terry Garvin. Puis George Scott, ben, il s'est fait mettre dehors. Puis Vince, il voulait m'envoyer dans l'office. J'ai travaillé dans l'office. Puis Terry Garvin, il était là. Puis il y avait René Goulet qui est devenu un producteur aussi, un agent, après un bout de temps, tu sais.
Pat!
Et les Québécois qui ont fait de quoi, là, tu sais.
Je pose la même question à toutes les à toutes les invités qu'on a qui ont lutté dans les années 80. Toi, tu as même lutté dans les années 70, dans les années 90 et même dans les années 2000, si je me souviens bien. Tu t'es fait démancher l'épaule au Centre Bell devant 20 000 personnes.
Ouais.
Par 3 minutes warning, on s'en souvient tous.
Oui.
Même si tu n'es plus autant actif que que les dernières années, tu as réussi à évoluer avec la lutte. Qu'est-ce que tu penses de la lutte aujourd'hui, en 2012?
Ah, il manque un petit peu d'affaires pour moi.
Qu'est-ce qu'il manque?
Toutes nous autres, quand on grandit, de 17 ans, t'arrives à 25, c'est pas comme avant. T'arrives à 35, c'est pas comme avant. T'arrives à 55 ans, c'est pas comme avant. T'arrives à 70, tu penses que tu l'as l'affaire. Tout change. Ça dépend que c'est de business que tu fais. Aujourd'hui, avant la lutte, c'était un territoire. Après ça, ça a commencé à ouvrir au Canada. Ça a commencé à ouvrir aux États-Unis. Après ça, c'est à travers le monde. Alors, il y a des pays qui ont des shows de télévision qui vont sur les ondes partout à travers le monde. Il y a des affaires que tu peux pas faire.
On parle surtout de la violence, là, c'est ça que tu veux dire?
La violence, c'est ça. Pas toucher les femmes, puis les femmes pas toucher les gars, des affaires de même. Alors, c'est une grosse business aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'avant.
Là, donc, avec la notoriété que la WWE, est-ce que le show a écopé? Est-ce qu'on voit moins de talent? Est-ce qu'on voit moins de liberté d'expression des lutteurs à cause des limitations que les réseaux vous donnent?
Oui, il faut faire attention aujourd'hui. Là. Avant, le monde, les lutteurs, ils embarquaient dans la reine, prenaient le microphone, ils envoyaient chier le monde. Mais non.
Ça se fait
ça
plus.
Ça n'a pas de sens, ça.
Non, mais on se souvient que Shawn Michaels souvent faisait des choses un petit peu à l'insu de l'office, à l'insu de Vince, cachait des choses dans ses culottes, il pouvait dire des choses qui n'étaient pas scriptées, mais ça donnait une saveur au show qui était un petit peu l'avantage de Monday Night Raw, parce que c'était live, c'était raw, puis ouais. Je pense qu'on a perdu un petit peu cette edge-là. Est-ce qu'on va la retrouver?
Certainement. Faut-tu modérer des fois, faut t'arrêter un peu, puis faut-tu modérer un peu, puis...
Mais est-ce qu'avec la venue prochaine du WWE Network, c'est pas ce que Vince veut faire, avoir ses propres règles, faire qu'est-ce que lui veut en ayant son propre réseau?
Mais certainement, faut-tu faire attention, faut t'avancer dans quelque chose tranquillement, pas vite, puis then slowly you grow, and then you do something that a little far out, and you get away with it. It's like in English, they call that pushing the envelope, you know?
Right.
So sometimes Vince started with that many years ago. You know, he pushed the envelope, and he pushed it for a long time. Then there was a lot of talk about it's too violent, it's too this, it's too that. But it's okay, you know what I mean? You push the envelope, at least they talk about you and they hear about you.
Right.
You know? Then after a while, it's like anything else in business. You grow, and wait a minute. We're going too fast here. We're going to slow down a little bit. You know what I mean?
Oui. Puis, en parlant de slowing down, ce dimanche, dans deux semaines à partir... pas ce dimanche-ci, mais dans une semaine à partir du dimanche, c'est le Royal Rumble. Est-ce que tu vas être présent?
Yeah, I'll be there. Of course I'll be there.
Donc, est-ce que tu as participé à la création du Rumble cette année?
Of course.
Donc, c'est qui va gagner?
What do you think?
OK, on va faire une question en studio. Qui va gagner le Rumble, Pat, cette année?
Mon Dieu, je vais y aller avec... je vais y aller avec Kane.
Kane.
Okay.
Patrice.
Wade Barrett.
Wade Barrett.
Patricia.
Moi, je vais y aller avec CM Punk. Est-ce que, non?
Il est champion aussi, CM Punk.
Ouais, c'est ça.
Il peut pas participer. C'est bon, à suivre. Je pense qu'il manque de café, ça se peut-tu?
Jimmy?
Jimmy?
Moi, je vois bien Mick Kimon, je vois bien Airtruth.
Ah, moi, je vais y aller avec Undertaker.
Undertaker. Oh, that's interesting.
Pat?
Yeah?
On a posé beaucoup de questions. On a eu beaucoup de belles réponses. Qui tu crois est le next Stone Cold Hulk Hogan The Rock? Est-ce qu'il est, peut-être qu'il n'est pas encore à la télévision, peut-être qu'il est à Tampa Bay, ou est-ce que t'en, y en a un que tu vois qui a tous les éléments pour devenir une méga star comme John Cena, comme The Rock, comme Stone Cold a été?
I don't know, but I see one guy that if he's handled properly, and if I was there every night to be working with him, he would be the next Shawn Michaels, without a doubt, is Dolph Ziggler.
Ah oui, Dolph Ziggler, wow! Ben, c'est pas le gars qui est le plus gros, on sait qu'il y a un background de, d'amateur, de lutteur amateur, mais pourquoi Dolph? Qu'est-ce qu'il y a de spécial comparativement aux autres?
Well, I only go by what I feel, okay?
Yeah.
I only go what entertains me. You know, other guys sometimes, you know, they're good, it's fun, but it's not what excites me. That fucking kid really fucking really gets me. I love his talent. He's very talented. And he's young. I mean, he's very young. It just reminds me like a Shawn Michaels when he was a kid, you know, when he was young, when he started for us. He was very talented, but didn't know when to do it, what to do, and he was a pain in the ass and all that bullshit.
Right.
But he learned, and he grew up, and he became a big star.
Donc?
And I think, to me, I see Dolph Ziggler as a big star down the road.
Donc, qui va décider si Dolph Ziggler devient une star? Est-ce que c'est Dolph Ziggler ou c'est la WWE?
Is what now? C'est que question, c'est quoi?
La question, c'est, we always wonder who decides who's going to be the biggest star. What I mean by that is Dolph in charge of his future, or it's WWE's going to have to make it for him?
The fans are.
The fans are.
Right.
C'est bon, yeah. Ça. Bonne yeah. Réponse.
Parlant des fans, Pat, peut-être en fin d'entrevue comme ça, la WWE est pas venue à Montréal de l'année 2011. La première année depuis 84-85, quand vous avez commencé à venir faire des shows ici. Là, elle revient ici à Montréal au mois de mars. Est-ce qu'il y a une raison, tu penses, pourquoi la WWE a boudé Montréal, qui a pourtant été un de ses plus gros territoires pendant des années et des années? Le territoire a vraiment bien répondu à la WWF pendant tellement d'années. Y a-t-il une raison que tu penses qui ferait en sorte que en 2011, ils ont décidé de passer à côté?
Non, c'est parce que c'est des tournées qu'on fait, là, tu sais. Ça prend deux, trois soirs de télévision. Et puis, ça prend un lundi soir, puis un mardi soir. Puis, le soir d'avant, il faut que ça soit
pas trop loin.
Je suis à Montréal le lundi soir, pour Monday Night Raw. Je ne veux pas être en Californie le soir d'avant.
Mm-hmm.
Alors, il faut que ça soit tout organisé. Puis, aller au Canada, ben là, c'est une autre affaire aussi. Tu emmènes tous les cameramen, les trucks, les camions, toutes les galons. Tu sais, les camions qui arrivent là, hein, qui prennent 20 camions, là, tout, c'est de l'ouvrage, puis passer aux douanes, là, c'est là qu'il y a le problème, là, tu sais. C'est, quand tu passes aux douanes, les trucks, faut que ça se rouvre, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, c'est à qui ça, c'est qui prend soin de ça. C'est vraiment des, paperwork is like, it takes forever. Mm-hmm. Paperwork for the wrestlers, for the cameramen, for the truck drivers, it's a lot of work.
C'est pain
à cause de la sécurité, je comprends. Dernière question, Pat, en finissant.
Yes.
WrestleMania in Miami.
Yes.
The Rock versus John Cena.
Yes.
Est-ce que le match va répondre aux attentes?
I fucking hope so. I fucking hope so.
Parce qu'on a des chiffres, des ventes records. Ça va être ça, il va y avoir au-dessus de 75 000 personnes.
Puis, oh, yeah.
Puis le point d'interrogation dans ce match-là, on le sait tous, c'est John Cena. Est-ce que John va être capable de suivre le momentum de The Rock?
Well, if he doesn't, then he's gonna fall on his ass.
Oh.
You know?
Ça peut-tu être la fin de John Cena? Ou c'est le nouveau heel, ou ça va être une tournure dans sa carrière?
No, I don't think that way. I don't think that way. I think that if you're a performer and you're working with a big star, you gotta get off your ass and fucking do it and steal the show. You got to fucking do that. It's not wrestling on Monday Night Raw now. It's not wrestling on the regular pay-per-view. This is WrestleMania, and you're wrestling The Rock, which he's built, you know, to be at the biggest star. But Cena has got it. He's gonna do it. He's gonna handle himself. He's gonna be just fine.
Est-ce que je me trompe, Pat, ou comme pour The Rock avec Stone Cold à Houston, ça risque fort probablement d'être toi qui va être en charge de ce match-là?
I don't know. I'm gonna try. Right.
Écoute, Pat, on te remercie de ton temps. On te souhaite une super...
Before you guys hang up, I want to say one thing. One thing that I really appreciate from you guys. You guys are wrestling fans, and you guys love the business probably more than I do, probably as much as I do. And I really appreciate what you guys are doing. It's fun for you guys because you love the business. And I wish you guys a lot of success because I know what you love. You love the business and you're working very hard at it to do the best you can. And don't give up, damn it, because you love it.
Thank you.
Il y a une autre chose, Pat, qu'on aime beaucoup, je pense, c'est jaser avec toi, parce que je pense que les trois ici, on aurait pu jaser de lutte avec toi toute la soirée pendant des heures et des heures. Un gros merci de ta générosité, Pat.
OK, can I ask you a quick question first?
Go.
Before you go, did you do a survey as far as Canadian wrestler that had a longest career in the business? A Canadian and also a Québécois.
Alors, tu poses la question, je pense que c'est Pat qui pourrait répondre, Pat Laprade en studio, qui est l'historien de la lutte au Québec, qui est en train de nous écrire un livre.
Tu veux savoir, Pat, si...
Qui a eu la plus longue carrière en tant que Québécois et ou Canadien?
Écoute, c'est une...
Canadien que je peux penser, moi, je pense...
Hart?
Stu Hart. You know, Stu Hart, because he was a wrestler, he was a promoter, and that was it. Other than that, comme Québécois ou Canadien, je pense
fucking no. Kowalski a lutté pendant longtemps aussi, Pat. Kowalski a commencé jeune.
C'est un Américain.
Kowalski est né à Windsor, en Ontario, Pat.
Kowalski, c'est un Polonais.
Ouais, mais qui est né en Ontario. Mais sinon, dans les Québécois, Maurice a connu une longue carrière. Maurice Vachon, Mad Dog Vachon, il a lutté pendant longtemps.
OK.
Mais écoute, c'est pas mal les noms au Québec, là, c'est pas mal.
Parce que Pat, tu dois pas être loin du record, toi, là.
Il n'y a pas un.
T'es rendu à combien, Pat? Combien de temps dans le business?
54 ans. Yeah.
Ouais, c'est vrai. 54 ans avec ta job à WWF et tout ça, c'est.
Puis ça fait 54 ans parce qu'on a un Français en studio qui arrive de France, puis lui aussi il est lutteur, puis il est promoteur, puis il réussit à vivre de ça. Toi, Pat, tu vis-tu de ça, la lutte?
Tu me demandes quoi là?
Oh, we have a wrestler and a promoter from France, and he says he's able to live with wrestling. For you, you've been in the wrestling business for 44 years. Have you been living with the wrestling?
54.
54. So you've been doing good?
Have you heard? What's his name?
Jimmy Gavroche.
Oh, has anybody heard about him?
In France, yeah.
That's it.
Well, it's pretty good in France. They have 65 million people.
Yeah, that's it. That's big, man. That's big. He must be a big star. Nobody knows him.
Well, not here. Over there. Pat is turning as a heel at the... Anyway, Pat, on te retient pas. On va te reposer parce qu'on sait qu'il faut que tu reposes ta voix. T'es comme Céline Dion. Tu parles jamais 48 heures avant un gros show. Fait qu'on thank you very, very much. And we all wish you a very, very pleasant 71st birthday.
Thank you. Thank you, Rod. Thank you very much, guys.
Okay. Thank you.
Merci, Pat.
Take care, Grimmick.
Thank you, bye.
Thank you, bye-bye.
Bye-bye.
Sur les ondes de CJLV 1570, c'est l'émission TOW Radio Show. En compagnie de l'arbitre Patrice Maltais, ses collaborateurs Marc Blondin, Sylvain Grenier, Patrick Laprade et Patricia Molloy. Pour nous joindre, faites le 450-680-1570 et sans frais, le 1-866-895-3142.
L'épilation définitive à la lumière pulsée de Palomar d'Oasis Technologies vous permet enfin de dire adieu aux poils.
Chez Oasis Technologies, une variété d'options s'offre à vous, hommes ou femmes.
Tout type de poils, tout type de peau et sur toutes les régions du corps, utilisez l'épilation à la lumière pulsée de façon sécuritaire et sans douleur.
Informez-vous sur nos spéciaux d'après-fête et vous pourriez recevoir votre premier traitement des aisselles gratuitement. Oasis Technologies, c'est plus de 50 points de service au Québec. 1-877-EPILATION, 1-877-374-5284. Ou visitez finislespoils.ca.
Ici DJ Mike Charlebois. Je vous invite à ma soirée karaoké du dimanche soir à la brasserie 4040, coin Jean Talon et Pinneuf à Montréal. La soirée débute à 22h et à minuit, nous diffusons à la radio un concert unique en Amérique du Nord. Venez chanter à la radio karaoké tous les dimanches. Pour plus de détails, 514-926-7500.
Le Pink Paradise du 117 boulevard des Laurentides à Laval pour éveiller vos sens. Le bar érotique voté numéro 1 dans la grande région de Montréal vous accueille. Du lundi au vendredi dès midi et le week-end dès 20h. Vous serez comblé de l'ambiance, mais surtout par le charme des demoiselles du Pink Paradise. Jusqu'à 30 demoiselles pour vous chaque soir. Visitez-nous au www.pinkparadise.ca ou encore mieux, une visite au 117 boulevard des Laurentides à Laval et vous serez comblé. Le Pink Paradise, la paire qui vaut le détour.
Vous êtes à 1570 Laval et au 1570.ca.
This is the phenomenal one, AJ Styles, and you're listening to TOW Radio Show.
Ouais, c'était spécial entendre Pat Patterson. Très belle ouverture.
Mais si vous saviez comment que j'ai ri en écoutant des histoires de lutte, là. Comment les gars s'amusaient dans le temps, là, sur la route. Oh boy!
Si je me trompe, c'est le vin où, avec, comme il nous l'a avoué, une bouteille et demie de vin dans le corps, il jase un peu plus.
Mais c'est un gars de vodka. C'est un gars de vodka, d'habitude. Puis, sa vodka, je pense, aurait été encore plus long que ça, sa vodka. Mais non. Le vin, ça l'endort, vu qu'on est correct.
On a quasiment profité de sa naïveté en état d'ébriété, quasiment, pour lui poser des questions. Ouais. Il en a dit pas mal trop. Ce serait bon que les autres, ils l'entendent pas. Sylvain, je suis content que tu sois là, étant donné qu'on a un invité européen aujourd'hui. Et puis, je sais que t'as écouté en t'en venant en studio, et puis, t'avais certains points à ajouter.
Ben, c'est parce que, étant promoteur moi-même, mm-hmm, avec la TOW, on parlait des attendance.
Des foules.
Qu'il y avait des bonnes foules de 1000-2000 personnes wrestling
centre. Et même plus, là.
Et même plus. Faut pas oublier que la superficie de la France rentre 7 fois dans celle du Québec, sauf qu'ils ont 65 millions de personnes. Mm-hmm. Fait que la publicité, la même publicité que la CAW peut faire ici pour un show, là-bas, au lieu d'être sur 1000 personnes, elle se ramasse sur 100 000 personnes.
Ouais, mais en même temps, Jimmy parlait qu'il allait dans des villes de moins de 20 ou 30 000 personnes.
Mais les villes, c'est petit, là, c'est ça.
Mais Jimmy, dans des villes de 20 ou 30 000 personnes, combien vous attirez?
On attire toujours autant de monde, en fait. C'est ça qui est un peu magnifique. On attire toujours entre 500 et 4 000 personnes. Donc, bien sûr.
Entre 500 puis 4000,
ouais.
C'est pas, attendez, les revenus, c'est pas pareil. C'est 500 ou 4000? Parce que 4000, c'est un gros show. 500?
Ben, 500, c'est le double d'un gros show au Québec, quand même.
Moi, je veux savoir, c'est quoi le moyenne?
Ben, ils viennent de dire entre 500 et 4000.
Ouais, ça dépend vraiment des
choses. Pat, tu vas venir travailler pour moi la semaine prochaine. 40 heures, je te paye entre 500 et 4000.
Non, Jimmy, ce que les gars veulent dire, t'attires combien de foules? Tu dis entre 500 et 4000 personnes qui vont voir tes shows de lutte?
Ça, c'est la moyenne, ouais.
Ben, la moyenne, peux-tu me donner un chiffre? Est-ce que la moyenne tourne plus autour du 1000? 2000?
Parce que 4000, j'imagine, c'est les gros shows. Comme les Zéniths qu'on parlait.
C'est exactement ça.
Qui arrivent 10 fois par année.
qui arrive une vingtaine, 20, 25 fois par année, on a ça, c'est vrai.
Parfait. Non,
mais sur une centaine de shows, c'est le quart des shows qui attire 4000 personnes.
Parfait.
Donc la moyenne en prend un bon coup, là.
Je comprends.
En moyenne, en général, on tourne autour de 1000.
1000, ok, parfait.
Ce qui est déjà pas mal.
Parce que c'est très, très bon.
Ben, c'est super
parce qu'ils n'ont pas
bon.
De télévision, ils n'ont pas de radio, comme qu'ils disaient tantôt.
Et des villes de 20 000 et 30 000 personnes, les gars, on en a au Québec, là.
Ben oui, mais c'est ce que la TW veut faire. Mais qu'est-ce que Jimmy a dit qui était très important? Il amène pas n'importe qui. Pour ces gros shows,
il amène
tout le monde d'Europe. C'est pas juste des Français.
Mais il amène pas nécessairement des personnes connues de la télévision.
Ben jamais, non, même. Comme jamais. il dit.
Mais ils choisissent les
meilleurs. Il est là, demandez-lui, il est là. Non, vous parlez.
Non, mais j'ai écouté l'entrevue tantôt. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que si nous, on fait la même chose, on prend le projet là-bas, ça marche super bien, puis on amène ça ici, on prend là, on fait juste changer le nom, puis on prend nos lutteurs à nous, nos meilleurs, puis on va chercher les meilleurs des États-Unis, les meilleurs du Canada anglais, les meilleurs de l'Ontario, les meilleurs du Québec.
Parce que toute l'Europe, c'est pas juste la France.
Puis là, on décide, on fait 10 villes. La première année. Mais la deuxième année, ça va être 20, puis 30, puis là, on va avoir une année complète, parce que le show va être bon.
Mais je te dirais que si la TOW veut faire ça, ou peu importe la promotion qui veut faire ça, envoyer un courriel à Jimmy, et moi, je serais intéressé en tabarnouche de savoir leur plan marketing, leur plan de publicité. On en a parlé un peu tantôt, Jimmy, mais je pense que
je suis sûr qu'il y a
des leçons à tirer de ça.
C'est que la première année, il y avait 300 personnes, puis ils ont fait des shows année après année, une fois par année, des bons shows.
Et c'est exactement ça. C'est exactement ça.
C'est du spectacle. Martin Matt, il vend des billets parce que ses shows sont drôles.
Jimmy, on voit son gabarit, il fait pas 150 livres non plus, là. Hein?
Ah non, moi je suis très petit pour l'Europe. Je fais même partie des plus petits. Mais pour répondre à la question que tu me posais, ce qui fait vraiment notre plan marketing, c'est que nous, on n'organise jamais. On est une fédération qui existe depuis 1933. Depuis 1933, on fait des shows partout en France, ce qui fait qu'on est connu.
Ouais.
On n'est pas connu loin. On va travailler dans une ville. La ville d'à côté va entendre parler de nous, ce qui fait qu'on va aller travailler dans la ville d'à côté. On va peut-être perdre la première, mais on aura la deuxième. Ça va nous donner une troisième. Et c'est comme ça qu'on arrive à tourner. On fait un turnover de toutes nos villes. On retourne tous les ans, tous les deux ans. Certaines villes, tous les 10 ans. L'important, c'est de tourner. Mais comme on fait ça depuis des années.
Vous avez une notoriété.
Bien sûr.
Mais c'est surtout...
Et la machine est bien huilée, est bien rodée. Ouais.
À la base, c'est le spectacle. Si les gens y retournent puis ils attirent du monde, c'est parce que le spectacle est bon. T'as plus besoin de publicité. Je pense pas que les Canadiens aient beaucoup de publicité en genre de Montréal, acheter des billets.
Mais ils n'ont pas besoin de cette publicité.
Et voilà, parce qu'on a la notoriété, les billets sont vendus d'avant.
Les gens en parlent,
parce que ça fait 100 ans, mais c'est un peu la même chose qu'ils ont. Fait que tout, c'est possible de créer ça. C'est possible, mais il suffit de le faire parce que, comme il dit, là, mettre des posters et aller passer des flyers, c'est pas du génie marketing, c'est la base.
Ouais.
C'est du man-to-man, c'est parler, c'est le téléphone, et ça se passe comme ça. Mais ils donnent des bons shows puis ils vont chercher les meilleurs.
Il suffit de le faire et il suffit de prendre le risque aussi, quelque part, financier de le faire.
C'est sûr, c'est officiel.
Parfait. Donc, on ira en France et puis on va aller prendre des notes.
Mais là, on s'en va en Belgique.
On s'en va en Belgique en automne, en octobre.
C'est tout proche.
Jimmy, qui voulait participer, représenter son pays, soit dit en passant.
Ben, ça pourrait peut-être se faire.
Ben, justement.
C'est une des vedettes là-bas. Fait que c'est... Moi, il faut que je me trouve quelqu'un à qui donner une volée. Fait que Jimmy, ça pourrait peut-être un de ceux-là. Surtout avec l'accent qu'il y a. Hein.
Ouais, mais Jimmy, il est juste connu en France. Il est pas connu ailleurs.
Ben, c'est ça.
Je suis très connu en Belgique. Il y a aucun souci et tu peux me donner n'importe qui, n'importe quel lutteur de la TOW, il aura un bottage de fesses à l'européenne et dans les règles de l'art. Il n'y a aucun souci.
Moi, je le trouve plus rafraîchissant dans ces challenges que le champion de la NCW, NCMGF.
Mais ils ont tous les deux une voix agaçante, par exemple.
Ouais.
Lui, c'est son accent. L'autre, c'est tout simplement son ton de voix.
Ouais, c'est ça.
Donc, il y a un défi. C'est l'année des défis, hein, Sylvain.
Ça se passe jamais.
Ouais.
Tu charges trop cher, Sylvain, on te l'a déjà dit.
Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis comme Jimmy, j'essaie de vivre de ça. Hein? Je fais vivre bien du monde avec ça, mais je m'en garde pas gros.
Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir passé en studio. Merci beaucoup, Jimmy. Pat, reste là dans un instant. On parle à la GEW. Tu peux rester là aussi si tu as des questions.
Non, mais on va au hockey.
On parle de lutte, de hockey, on sait pas c'est quoi. Merci, Sylvain, de t'avoir déplacé.
Ciao, les boys. Salut, hey, bon grattage,
de vite. Je te souhaite de trouver ton oasis dans la lutte, Sylvain. You think you know me? On this day, I see clearly everything.
Wallaway, Wallaway. Donc, on parle à la GEW. Salut, ça va?
Oui, ça va bien.
Excuse-nous de t'avoir mis en délai. On n'a pas de parole, je pense. Smum Dax.
Appelez-moi par mon nom de promoteur plutôt que Smum Dax.
Ben, je vois que t'avais un super de beau nom en plus, Maltais. On n'est même pas parenté en plus.
Aucunement parent, à moins que ce soit de très très loin.
Très très loin.
C'est à ton avantage, Sébastien.
C'est à mon avantage?
Oui.
Ah, ok, ouais.
Ouais, ben écoute, si t'aurais pas appelé Maltais, t'aurais pas passé aujourd'hui. La GEW, il y a un gala ce samedi. Je voulais te donner la chance de plugger ton show. Mm-hmm. Vas-y, on t'écoute.
Bon, ben ok. Les détails importants, je vais les dire tout de suite, puis je vais les répéter à la fin. Donc, ce samedi 21 janvier, 19h30 à l'école secondaire de la Haute-Ville à Granby. Donc c'est notre show du mois de janvier qui s'appelle Winter Slam. Qu'est-ce que je peux dire là? Tu veux-tu avoir ma carte au complet? Je te défile ça. Tu veux-tu un petit peu?
S'il vous plaît, t'as un beau 4 minutes.
J'ai un beau 4 minutes. On va faire ça vite. Le match le plus important, je dirais que c'est notre combat 10e anniversaire, parce que vu qu'on est dans notre 10e saison cette année, un peu comme la NCW fêtait sa 25e année, donc nous, c'est notre 10e, et puis on va avoir Alex Silva qui est notre invité. Donc à tous les mois, on a un invité qu'on appelle invité 10e anniversaire qui est présent. Donc là, on a Alex Silva qui va affronter Scott Matthews, qui est un de nos lutteurs locaux, qui a gagné le tournoi Roi de la GEW en décembre. Donc ça devrait être un combat qui est très intéressant. Ensuite de ça, combat numéro 2, là, c'est pas l'ordre évidemment là, de la carte, tout ça, l'ordre est à déterminer encore. On va avoir Magnifique Zero contre notre champion actuel à la GEW qui est Zircon. Ce sera pour la ceinture poids lourd de la GEW. Je tiens à mentionner, puis là je vais l'annoncer, pardon, je vais l'annoncer en exclusivité à votre show. C'est pas annoncé nulle part encore. Ça va être un last man standing. Combat là la règle, si je me souviens bien, là, c'est 10 secondes au tapis, là, si je me souviens bien.
Oui, c'est exactement ça.
Donc il y aura ça comme combat. Les deux sont des anciens, il y a beaucoup, beaucoup d'historiques. Ça fait longtemps qu'ils sont dans la GEW, donc anciens partenaires, anciens ennemis. Ça va être un combat là à finir, là, last man standing pour cela. Un troisième match, ça va être Trevor Blair contre The Extreme. Trevor Blair qui est un lutteur très intense dans le ring contre The Extreme, qui est un de nos vétérans, si je me trompe pas, est là depuis les débuts à la GEW, depuis le tout premier match dans la petite quand la Fed était plus je dirais plus petite et non pas aussi importante qu'on l'est aujourd'hui maintenant. C'est un combat revanche, c'est pour la ceinture, ce qu'on appelle nous la ceinture provinciale de la GEW, donc un peu l'équivalent là, de la ceinture intercontinentale. Donc Trevor Blair l'a perdu au dernier show, à la grande surprise de tous, fait que maintenant c'est combat revanche, et puis ça va être un combat de soumission pour celui-là.
Excellent!
Excusez-moi, je vais reprendre mon souffle, comme je
t'en... Ouais, t'as l'air nerveux, hein?
Ah oui, non, prends ça relax, Sébastien.
OK. Simon Says contre Benedict Brown. Dans ce cas-ci, au dernier show, Simon Says et Benedict ont eu des problèmes. Ils étaient en équipe, ils étaient les champions par équipe. Eu des gros problèmes au dernier show. Et je ne sais pas si vous regardez un peu, s'il y en a qui regardent un peu les promos sur le web, Benedict Brown a démoli une des ceintures par équipe live devant ma superbe caméra à coup de drill et puis de scie mécanique et tout. Donc là, on n'a plus de ceinture par équipe à cause de ça. Là, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Puis il n'y a plus de champion par équipe non plus. Donc là, les ceintures sont vacantes. Alors là, on a une situation qui est à suivre, intéressante. Et puis les deux vont combattre. Là ça n'a plus rapport vraiment avec les ceintures par équipe. Ils vont combattre parce que là, ils s'entendent plus.
OK.
Qu'est-ce qu'on a à part de ça? Calamity, la championne internationale NCW Femme Fatale, qui va être présente et en action à notre show, Calamity qui vient de Granby, et puis depuis le début de la saison, là, qu'on essayait de l'avoir au show parce que c'est comme un peu normal qu'elle se fasse voir avec à la ceinture là, dans sa ville. Fait que on va avoir Calamity qui va être là sur place.
Excellent. Ensuite de ça, faut voir rapidement.
Ensuite de ça, rapidement, qu'est-ce que je peux dire quelques noms sans nommer des matchs là. Chris Cruz qui va être présent, Pitbull Brando, Highlight Reel, l'excellente équipe de Sherbrooke, Mitch Thompson également en action. Tous ces noms-là vont être là dans différents combats. La date ce samedi, 19h30, les Portereaux vont à 19h à l'école secondaire de la Haute-Ville. Évidemment, allez voir le site web ou le Facebook. GEW.ca pour le site web, puis Facebook Lutte GEW. Toutes les infos sont là.
Merci beaucoup, hein. Désolé pour le contretemps, puis je te souhaite un excellent succès lors de ton événement, Mr. Maltais.
Ben, merci beaucoup.
Bonne soirée.
Bye bye.
Bye. Tiens, c'est drôle, hein. On t'avait pas entendu encore, toi.
Il est à temps, là, qu'on ait du contenu dans ce show-là, là. Faut finir en force.
Ben, on peut soit laisser jouer ta chanson ou te laisser parler. Qu'est-ce que tu préfères?
Ben là, baisse ma chanson tranquillement, puis je vais me mettre à parler. Là, Maltais, fais pas ton comique parce que t'es une vedette qui fait des loups-garous, là.
C'est drôle, c'est pas la même tune qu'on a entendue samedi dernier, JF. Il y avait comme... il y a eu comme un run-in, comme tu nous fais ça à l'émission, mais de Aqua avec Barbie Girl.
Ouais, on a voulu me déconcentrer, mais comme t'as pu voir, Coyote, MCMJF est sorti victorieux, comme je l'avais prédit de mon match.
Effectivement, faut lui donner ça, Patrice.
Mais écoute, étant donné que j'ai été témoin de la scène, j'ai l'impression que t'as pas grand mérite, étant donné que la gorge Gorgeous Mike s'en est mêlée en frappant Pat Gainette avec la ceinture dans le dos de l'arbitre, qui n'était pas moi.
Moi, tout ce que je me rappelle, c'est que j'ai fait un marteau pilon, 1, 2, 3. On a levé mon bras, la foule est en délire, on est allé au Mumba, les féfés étaient là, la Grey Goose. Puis, parlant de vodka, notre ami Pat Patterson, semble-t-il, c'est un bon consommateur de vodka.
Bon consommateur de vin surtout. Je pense qu'en empilant les noms d'église, je devrais m'arranger avec mon producteur demain. Mais bon, écoute, gâche pas ton moment de gloire, là, Pat. T'as crié à la foule, pas Pat, je veux dire, Handsome GF, tu vois comment que t'as plus vraiment d'importance à mes yeux. T'as crié à la foule qui était même pas invité.
Pas d'importance, le champion québécois de l'NCW, le meilleur champion au Québec, plus d'impact. Parle-moi de ça.
Ah, ben là, écoute, t'as un léger impact parce que t'agis différemment de la dernière fois. T'interromps mon show la dernière minute. Il nous reste à peine 3 minutes. T'as pas voulu inviter personne au Mumba. C'est quoi cette hypocrisie-là tout d'un coup?
Ben là, j'ai-tu vraiment besoin de le dire, là, quand tu regardes l'allure de nos fans, est-ce que je peux en inviter certains? Pas sûr.
Ben là, explique-moi, c'est quoi le frais fan club, c'est quoi ça?
Le frais fan club, écoute, il y a certaines personnes, je dois dire, qui sont fraîches, là, qui ont des belles valeurs, mais le reste, là, je pense pas qu'ils méritent de passer une soirée avec Handsome GF. Là. Ils peuvent pas virer un club à l'envers avec Handsome GF.
Est-ce que tu as été mis dehors du Mumba?
Ouais, mais des fois je vais faire un tour au Tops, puis quand on vire le Tops à l'envers, tu sais comment ça s'appelle?
Non, vas-y.
Ben là, vire le nom à l'envers et puis dis-le. Voyons donc, Maltais, t'es bien pas vite.
Non, écoute, j'ai plein de pitons en avant de moi. Parce que j'ai encore une image d'un cellulaire là dans mes yeux qui m'ont brûlé les verres de contact.
Ah ouais, qu'est-ce que t'as vu?
J'ai vu des jumeaux.
Mais en tout cas, Maltais, on peut changer de sujet. Puis peux-tu nous parler que toi, t'es en amour maintenant?
Ah, je peux pas. C'est la fin de l'émission.
Voyons donc.
Merci beaucoup, Anson GF, d'avoir interrompu encore une fois cette émission. On se reparle la semaine prochaine.
Tu peux pas couper une chanson country et me laisser 5 minutes de plus?
Ben écoute, c'est pas toi qui paye, ça paraît. Ben écoute, c'est déjà terminé. Je te remercie beaucoup. Non, je te remercie pas pantoute. Je veux plus que t'appelles en ondes. Arrête d'appeler, OK?
C'est un plaisir, Maltais.
Même moi, je suis tanné.
Salut le loup-garou, salut le coy.
Salut Handsome.
Salut Jeff.
Bye. Donc, merci beaucoup, Pat. Il nous reste à peine 50 secondes.
Ça me fait extrêmement plaisir. Et il y a quelqu'un sur Facebook qui a dit « Patricia Malloy, Patrice Maltais, Pat Laprade et Pat Patterson, la soirée des Pats ce soir au TOW Radio Show. »
Merci beaucoup, Patricia.
Merci, merci à vous autres.
Merci beaucoup, Jimmy.
Merci à toi.
Bon retour parmi les tiens et bonne fin de vacances parmi les nôtres.
J'espère.
Ah, c'était pas si pire que ça.
C'était bien dit, Pat, tu m'as surpris.
Donc, merci à tous d'avoir été là. Patrice Maltais qui vous souhaite une bonne fin de soirée. Si vous nous écoutez en podcast, bonne fin de podcast. Nous, on s'en parle la semaine prochaine. C'était le TOW Radio Show 1570 AM, également le 1570.ca. Ciao, ciao!